Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous informer ce matin. Les titres de ce journal: le test national de fin d'études primaires débute aujourd'hui mercredi sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal, nous irons à Bandundu où le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Kwilu affirme que toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe dans le calme. L'Organisation mondiale de la santé déclare la fin du poliovirus sauvage en Afrique. L'annonce en est faite hier mardi par la Commission africaine de certification de l'éradication de cette épidémie. L'éradication de la poliomyélite marque l'élimination d'un deuxième virus sur le continent après l'élimination de la variole il y a cela 40 ans. Des militaires et policiers déployés hier au poste frontalier de Kasumbalesa, ils ont reçu mission d'y faire régner l'autorité de l'État dans la zone appelée Bilanga, réputée pour la contrebande. Ils doivent empêcher les individus de s'arroger les prérogatives de l'État. Nous en parlons dans ce journal avec le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Fulbert Kunda Milundu. C'est lui notre invité. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonjour, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Le test national de fin d'études primaires prévu pour 2 jours débute aujourd'hui mercredi sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Dans la province du Kwilu, toutes les dispositions sont prises pour que ces épreuves se déroulent en bonne et due forme. C'est Eric Muzezia, le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Kwilu, qui l'affirme. Il indique en outre que tous les centres d'examen ont déjà reçu du matériel de protection contre le coronavirus. Les mails contenant les questionnaires sont déjà arrivé dans sa juridiction, précise-t-il. Eric Muzezia au micro de Irène Bouma.
La province du Kwilu a été honorée par le secrétaire général à l'EPST, Jean-Marie Mangobe, qui est arrivé ici et qui a distribué le lave-main cache-nez. Ce côté, il ne se pose aucun problème et tous les différents centres ont été dotés de matériel. Dans toutes les 3 différentes provinces éducationnelles, à savoir Kwilu 1, Bandunduville, Kwilu 2, Kikwit et Kwilu 3, Idiofa. Il y a des bancs de 2 mètres, il y a des bancs de plus de 2 mètres et toutes les dispositions aussi ont été prises relatives à la distanciation. Oui, les enfants se placeront 2 par banc, 3 par des longs bancs. Pour le problème de frais, il y a un arrêté du gouverneur de province qui fixe à 17 500 francs congolais par élève pour les écoles privées agréées. Mais les élèves des écoles publiques ne payent absolument rien. Nous devions attendre les frais du trésor public tel que décidé par la hiérarchie, mais jusqu'en ce jour, rien n'a été versé dans les comptes de la province, mais nous sommes déjà rassurés, nous avons des rapports et toutes les mails sont arrivées à destination.
En Ituri, à une semaine de l'examen d'État dans la ville de Bounia, certains finalistes du secondaire et ceux du primaire qui ont fui les atrocités à Djougou et Mahagi ne savent pas s'ils pourront passer cette épreuve. Même situation pour d'autres qui étudient actuellement dans les écoles de Bounia, car la frontière est fermée suite à la pandémie du coronavirus, mais qui était régulièrement inscrit en Ouganda. Le ministre provincial de l'EPST rassure que des dispositions ont déjà été prises. C'est ce que nous explique Ezekiel Mouzalia.
Ces élèves qui redoutent une année blanche dans leurs écoles demandent aux autorités à tous les échelons de les autoriser à passer cet examen ici à Bounia. Selon leurs propos, ils ne sont pas encore fixés sur la date de la rouverture de la frontière ougandaise. La plupart d'entre eux suivent les cours dans les écoles de la ville de Bounia, mais ne savent pas encore s'ils pourront passer ces épreuves sur place ou pas. Les enfants des déplacés qui ont fui la guerre manifestent la même inquiétude. L'un d'eux s'exprime.
Pour nous, c'est un peu compliqué parce que les frontières sont fermées et l'Ouganda est toujours confiné. Il n'y a pas de précision encore. Il ne reste qu'une semaine pour faire l'examen de temps. On est un peu bloqué. Bon, la crainte, c'est plus qu'on puisse déclarer pour nous une année blanche.
Contacté, le ministre provincial de l'EPST rassure que des pourparlers sont en cours avec l'ambassade de la République démocratique du Congo en Ouganda pour décanter cette situation. Selon lui, ses élèves et d'autres dont les écoles ont été délocalisées pour cause d'insécurité auront une session spéciale. Jean Vianney Agnoli, ministre provincial de l'EPST.
Pour les enfants qui étudient en Ouganda, étant donné que la République de l'Ouganda n'a pas encore déconfiné, ça signifie que ces enfants auront une session spéciale. Qui ne s'inquiète pas.
Pour rappel, la province de l'Ituri compte plus de 11 écoles qui fonctionnent dans des pays voisins. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Examen d'État encore avec ce plaidoyer de la société civile du territoire de Gungu dans la province du Kulu. Elle plaide pour la réduction des frais de participation à l'examen d'État fixé cette année à 132 000 francs congolais. Avec les parents, ils ont adressé lundi 24 août une correspondance à l'autorité provinciale pour tenir compte des difficultés que traversent les parents après près de 5 mois de confinement dû à la pandémie de la maladie à coronavirus. L'essentiel de leur plaidoyer avec vous, Kanish Mokongo.
Ils étaient plus de 700 parents d'élèves du territoire de Gungu à se regrouper autour de la société civile locale pour préparer un plaidoyer à envoyer au gouverneur afin de procéder à la réduction des frais de participation à cette session d'examen d'État. Ils se disent tous être dans l'incapacité de payer 132 000 francs congolais au risque de voir leur enfant rater l'année scolaire. Joachim Kusamba est le président de la société civile de Gungu.
Les parents éprouvent d'énormes difficultés. La situation de précarité est criante. Ça sera difficile de pouvoir faire face à tous ces problèmes-là. Nous ne voulons pas vraiment imposer des montants au gouverneur pour cette réduction. En tant que père de famille, nous pensons que les rabattements qu'il pourra faire, ça pourra vraiment permettre à tous les parents de pouvoir payer les frais de participation de leurs enfants.
Outre le gouverneur Willy Ichundala, plusieurs autorités locales sont saisies pour plaider en faveur de cette doléance de parents, ajoute M. Joachim Kusamba.
Le président les a envoyés depuis hier à Bandundouville. Nous sommes en train de faire le suivi pour voir si le gouverneur lui-même a déjà lu les plaidoyers. La copie a été déposée à l'administrateur des territoires, la copie a été déposée au CPT de l'ANR, la copie aussi a été déposée au commandant donc de la police de la PNC. Tout le monde est en train d'attendre vraiment que son excellence, M. le gouverneur de province, puisse réagir.
Notons que le territoire de Gungu est situé à environ 700 km de Bandundouville, chef-lieu de la province de Kulu, dans l'ex-province de Bandundu de Mambré.
C'est désormais officiel, le virus sauvage de la poliomyélite est éradiqué en Afrique. L'annonce en est faite hier mardi par la Commission africaine de certification de l'éradication de cette épidémie, qui est un organisme indépendant chargé de suivre et de superviser le processus de certification de l'Organisation mondiale de la santé sur le continent noir. La poliomyélite est une infection virale qui se transmet d'une personne à une autre, principalement par la voie fécale, orale ou moins fréquemment par l'eau et des aliments contaminés et qui se multiplient à l'intérieur des intestins. La déclaration de l'éradication de la poliomyélite marque l'élimination d'un deuxième virus sur le continent après l'élimination de la variole il y a cela 40 ans. D'autres détails avec vous, Karish Mukongo.
Cette annonce de l'éradication de la poliomyélite intervient après un processus exhaustif de documentation et d'analyse sur plusieurs décennies de la surveillance de la poliomyélite et de la vaccination et des capacités des laboratoires de 47 États membres de la région qui comprenaient des visites et des vérifications sur terrain dans chaque pays, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé OMS dans un communiqué. Une occasion pour la Commission nationale Polio Plus du Rotary International en République démocratique du Congo de se féliciter pour la contribution de ses 32 000 membres en Afrique, une contribution qui a permis d'éradiquer la poliomyélite aujourd'hui. Le Rotary International a déclaré, je cite, « L'annonce de ces jours est en partie le résultat des actions cumulées du Rotary et de ses membres qui ont contribué à hauteur de près de 890 millions de dollars et d'innombrables heures de bénévolat pour l'élimination de la polio dans la région africaine. » Fin des citations. Rappelons que le dernier cas de polio sauvage détecté en Afrique a été notifié au Nigeria en 2016. Et depuis 1996, les efforts d'éradication de la poliomyélite ont permis d'éviter une paralysie irréversible à 1,8 million d'enfants et de sauver près de 180 000 vies.
Allons à présent dans le Nord Kivu. Les mesures barrières contre le coronavirus sont rendues obligatoires dès ce mercredi dans la ville de Butembo. C'est notamment le port des masques et la fermeture de toutes les boîtes de nuit et autres lieux de réjouissance populaire. C'est la décision du maire de la ville à travers un arrêté signé lundi dernier. Les contrevenants à cette décision s'exposent à des sanctions, peut-on lire dans l'arrêté. Cette décision est consécutive à l'explosion des cas de coronavirus dans la ville de Butembo, qui a dépassé la barre de 40 ans et de plus de 100 contacts en cours de suivi. Grâce à Mzalti nous en dit plus dans ce reportage.
Dans cet arrêté, L'autorité urbaine rend obligatoire le port des masques, ordonne la fermeture des boîtes de nuit, interdit les rassemblements de plus de 20 personnes pour raison de deuil ou festivités ou encore des manifestations publiques. L'extrait de cet arrêté a été lu par son secrétaire administratif Nguru Kasereka.
Il est recommandé la fermeture de toutes les boîtes de nuit et ciné à Boutembo, l'interdiction formelle de transporter plus de 10 passagers pour les minibus Trosseville, plus de 30 passagers pour les Globus, plus de 4 passagers pour les voitures, sous peine de poursuites judiciaires.
La société civile salue cette décision et demande à la population de la respecter. Cependant, professeur Telesphore Malonga, son président, relève des ambiguïtés dans cet arrêté qui risque d'être mal interprété.
En droit pénal, nous disons que les mesures infligeant des sanctions doivent être interprétées de façon stricte. De façon que si le maire a dit les boîtes de nuit, ce ne sont pas les restaurants, ce ne sont pas les terrasses. Les gens vont se dire, je suis sur une terrasse, je ne suis pas dans une boîte de nuit. Or là aussi, effectivement, les contaminations sont possibles.
Le commandant urbain de la PNC indique que ces éléments seront d'ici là déployés dans la ville pour l'exécution de l'arrêté du maire. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Okapi.
Le forum sur les réformes électorales ouvert lundi à Kinshasa pourrait reprendre aujourd'hui mercredi. Les discussions ont été suspendues hier mardi. Depuis le début, le CASH et le FCC, la coalition pouvoir, ne participent pas à ces assises. Le FCC, par exemple, avait fait savoir que les questions liées aux élections devraient être traitées dans un cadre purement institutionnel et c'est notamment pour tenter d'obtenir plus d'inclusivité et de consensus que le forum a été suspendu hier. Écoutez à ce propos le professeur Kabata Kabamba, expert à ce forum pour le compte du Centre d'appui politologique Afrique-Caraïbe. Il est au micro de Kelly Kunté.
Oui, il y a eu une demande expresse de participants qui étaient là, parce que tous ceux qui ont été hier ont envoyé leurs experts. Ils ont demandé qu'on puisse prendre la journée. Et comme la plupart des acteurs absents ont été consultés préalablement avant le début du forum, qu'on puisse se retourner vers eux, parce que nous discutons dans la fraternité, en espérant, et nous le souhaitons, nous, de CAPAC certainement, espérant que on puisse reprendre les travaux avec la présence de tout le monde.
Dans la capitale, l'évêque Pascal Mukuna est homme libre. Le responsable des assemblées chrétiennes de Kinshasa est sorti de la prison centrale de Makala hier en début de la soirée. Il a été accueilli et escorté chez lui par une foule de fidèles de son église et de sympathisants. Lundi soir, Pascal Mukuna était acquitté par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Jeff Ngoy revient ici sur les accusations dont il a été lavé.
L'évêque Pascal Mukuna a été poursuivi pour 3 infractions. Viol sur Mami Chibola, ancienne fidèle de son église, menace de mort et confiscation des documents parcellaires de Chibola. Cette cause a été entendue d'abord par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu. Parmi les 3 juges d'instruction de Kalamu, 2 avaient jugé d'acquitter Mukuna contre 1. Le juge président, celui-ci était alors accusé de partialité par la partie prévenue, d'où la suspicion légitime. Pour cette raison, la cause a été transférée au TGI Gombe sur décision de la cour d'appel. Et hier soir, le tribunal a décrété le non-lieu, innocentant ainsi l'évêque de toutes ses infractions. Il ordonne sa libération immédiate. Celui-ci devait intervenir hier soir, mais le parquet avait déjà fermé ses bureaux pour des formalités administratives.
Dans une courte affaire concernant le dossier anticorruption de 100 jours, le directeur général de l'Office des routes, Herman Mutima Sakrini, a été libéré lui aussi, selon un des responsables de la prison centrale de Makala. Il est sorti lundi de sa cellule où il était en détention préventive depuis près de 6 mois sans procès. Herman Mutima est poursuivi pour un présumé détournement des fonds alloués à la construction des sauts de moutons dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État.
Actualité internationale.
L'actualité en dehors de la RDC, des milliers de Libériens vêtus de noir ont protesté hier mardi à Monrovia contre l'inaction dont elles accusent le gouvernement du président George Weah face à la recrudescence des viols. Nous avons enregistré plus de 600 cas de viols entre juin et août, a dit à l'agence France Presse Margaret Taylor, directrice de l'ONG Women Empowerment Network, œuvrant pour les droits et l'émancipation des femmes. Les secouristes touristes ont extrait mardi, hier donc, un garçon de 4 ans encore vivant dans les décombres d'un immeuble d'habitation qui s'est effondré la veille dans l'ouest de l'Inde, un drame dans lequel 13 personnes ont péri tandis que 60 sont encore ensevelies. La foule présente sur les lieux dans la ville de Mahad a applaudi lorsque l'enfant est apparu à la surface puis a été transporté sur un brancard, a pu voir l'AFP sur une vidéo. La superstar argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, 33 ans, encore en contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le Barça, a communiqué au club via fax qu'il souhaite unilatéralement résilier son contrat, a confirmé à l'agence France Presse une source au sein du club catalan hier mardi. Les avocats du joueur ont fait parvenir au club un fax dans lequel ils annoncent la volonté de Messi de résilier son contrat unilatéralement à vertu de la clause qui a expiré le 10 juin dernier, mais le club considère que son contrat est encore valide jusqu'au 30 juin 2021, a indiqué cette source à l'agence France Presse.
L'invité.
Les militaires et policiers sont déployés depuis hier matin au poste frontalier de Kasumbalesa pour rétablir l'ordre, notamment dans la zone appelée Bilanga, où fleurit la contrebande. Pour le ministre provincial de l'Intérieur dans le Haut-Katanga, ces éléments y resteront pour faire respecter l'autorité de l'État et éviter que des individus s'arrogent les prérogatives de l'État. Fulbert Kunda Milundu, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, répond aux questions de Jean Gandou.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
En fait, en ce jour, Kasumbalesa se réveille avec une nouvelle situation. C'est quoi exactement?
Depuis quelque temps, il y a une situation tout à fait anormale qui s'est déroulée à Kasumbalesa. Il y avait des compatriotes de certains partis politiques qui commençaient à se substituer au service public, ce qui était tout à fait anormal. Et nous avons estimé que le moment était venu pour rétablir l'ordre. Les services chargés de rétablissement de l'ordre sont en train d'agir. Nous pensons que nous n'avons fait que ce que nous sommes appelés à faire. Nous ne faisons que remplir nos obligations vis-à-vis de l'État pour lequel nous nous sommes engagés à travailler.
Quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied en ce jour à Kasumbalesa?
Il n'y a pas de stratégie particulière. L'État ne doit pas abdiquer devant ses responsabilités. Quand l'ordre public est rompu, quand il y a déviation de certaines organisations privées, l'État a l'obligation de rétablir l'ordre. Et ce qui est en train de se passer à Kasumbalesa n'est qu'un travail de rétablissement de l'ordre institutionnel, de l'ordre républicain des choses.
Jusqu'à quand les policiers et militaires vont rester à Kasumbalesa?
Bon, ils ne sont là que pour une mission ponctuelle. Dès que nous allons estimer que l'ordre a été rétabli, ils vont revenir travailler, rejoindre leur poste habituel. Donc, je ne pense pas qu'ils vont aller s'éterniser là-bas. Ils sont allés là-bas juste pour une intervention ponctuelle et ils vont revenir.
Que faire alors pour qu'ils ne puissent pas tomber aussi dans la contrebande ou faciliter la contrebande comme ça a été décrié plus d'une fois?
L'État n'a pas l'intention de les laisser là-bas pour une éternité. Comme je viens de vous dire, ils sont allés là-bas parce qu'on avait besoin de renforcer les unités locales. Donc je crois qu'ils n'auront pas le temps de pouvoir s'acclimater et entrer dans ce système pour lequel ils sont allés mettre fin d'ailleurs.
Le mal a été beaucoup décrié, mais ceux qui ont commis les mal ne sont pas arrêtés. Qu'est-ce que vous envisagez en rapport avec les gens qui ont été pointés du doigt?
Nous sommes du côté de la loi. Comme on dit, d'où à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous allons l'appliquer dans sa forme la plus pure, si vous voulez. Je crois que vous anticipez en me posant cette question. Il faut nous laisser agir et vous verrez, vous nous jugerez. Travail qui sera accompli, il y aura un moment où il faudra faire le bilan du travail qui est en train d'être fait.
Est-ce que vous n'agissez pas en retard, monsieur le ministre?
Je ne pense pas que ce soit en retard. Vous savez, dans la vie, on doit être prudent. Dans ce sens que les malfaiteurs peuvent vous tendre un piège et vous prendre dans une espèce d'embuscade. Si nous avions laissé faire, c'est parce que nous voulions voir la bonne foi des gens qui étaient en face de nous. Mais maintenant, c'est un reniement, je dirais, mutuel. Ces organisations privées qui avaient investi les Bilanga, nous sommes en train d'assister par rapport à ces organisations, disais-je, à un spectacle désolant où ceux qui doivent donner des instructions sont contredits par ceux qui doivent les exécuter. Et j'apprends que cette réaction en chaîne de reniement se poursuit jusqu'à Lubumbashi, où celui qui n'est pas reconnu comme faisant partie du parti à certaines instances au niveau national, au niveau provincial ici, on reconnaît qu'il a des responsabilités, si pas sectionnaires, mais tout au moins au niveau de la cellule. Donc c'est un spectacle désolant qui n'est pas bon d'offrir au grand public. Je crois que quand on a des problèmes dans un groupe, il faut les gérer à l'interne plutôt que d'offrir du spectacle à la nation.
Monsieur le ministre, un appel que vous pouvez lancer à la population de Kasumbalesa qui a longtemps vécu cette situation, laquelle a aussi terni l'image du pays parce que c'est vraiment la frontière.
Mais vous savez, l'État reste l'État. Même s'il peut s'assoupir pendant un temps, il vient le moment où l'État se réveille et doit rétablir l'ordre. Si je peux donner un message à mes administrés, c'est de savoir que nous appartenons à un État, nous appartenons à la nation congolaise. Et en tant que tel, le Congo est organisé à ses lois et règlements et que nous sommes tenus comme citoyens, évidemment, de respecter ces lois et règlements. Sinon, la vie commune devient impossible. Nous devons nous soumettre aux lois et règlements que nous avons volontairement établis. Parce que nous avons un contrat social qui fait de nous des citoyens congolais. Et ces lois et règlements auxquels nous adhérons, parce que ceux qui édictent ces lois, ce sont nos élus. Nous devons nous y soumettre. La loi est dure, mais c'est la loi. Et elle est opposable à tout le monde. Donc, l'ordre institutionnel des choses doit être respecté, quelles que soient les conditions. S'il faut utiliser peut-être des moyens un peu plus durs, on va le faire. Mais on doit rétablir ça.
Fulbert Kunta Milundu, je vous remercie.
Merci infiniment.
Fulbert Kunta Milundu, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, répondait aux questions de Jean Gandou. C'est lui l'invité de ce journal qui est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir écouté et vous pouvez le réécouter sur radiookapi.net. Merci de votre sympathique attention.